On va continuer l'étude qu'on a commencée il y a une couple de semaines sur le Saint-Esprit. On veut apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit. La Bible en parle. Je suis quand même très étonné, là. Autant qu'il y a un verset que Jésus dit, le Saint-Esprit ne vient pas et il ne parle pas de lui-même. Mais il va vous rappeler les choses que moi je vous ai dit. Mais quand on interprète ce verset-là, on est en train de... Je l'ai déjà entendu que les gens disaient que le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de lui. Il ne parle pas de lui-même. Il parle de Dieu. Mais en réalité, c'est pas ça que ça voulait dire. C'est qu'il ne parle pas de lui-même comme il n'inventera pas les choses de lui-même. Il va ramener les choses que Jésus a dit, puis il va vous révéler les choses cachées que le Père veut nous révéler. Le Saint-Esprit... La Bible en parle du Saint-Esprit du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Le Saint-Esprit est présent partout. Il y a plein de beaux versets qui nous parlent, quand tu rassembles tout ça, là, pour nous donner comme, nous faire comprendre davantage qu'est-ce qui est, qui il est, comment est-ce qu'il est formé. Parce que quand on dit qui est Dieu, c'est un petit peu abstrait, parce que Dieu est esprit. On parle, qui est, si j'ai un verre dans mes mains, quel est ce verre? Là, tout le monde le voit, c'est de la vitre, il y a telle forme, puis ici, puis ça. Mais quand on parle de quelque chose d'invisible, pour arriver à l'expliquer, puis d'en parler pour que tout le monde comprenne, faut que tu prennes les révélations de la Bible. Faut que tu prennes les versets qu'il y a dans la parole de Dieu, tu ramasses tout ça, puis là, tu donnes un t'expliques les versets, on médite les versets, puis là, on s'aperçoit que on apprend à connaître Dieu en méditant sa parole. C'est là qu'il faut en venir. Être capable d'aimer, réfléchir, méditer, c'est ça que ça veut dire, réfléchir sur les versets pour qu'on arrive à comprendre qui qu'il est. Quand tu vas apprendre à connaître qui il est, tu vas savoir qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit, on l'a reçu quand on s'est converti. Puis il nous accompagne tous les jours de notre vie, même si on l'oublie, lui est encore là. Puis il continue d'agir dans nos vies, même si on y demande pas. Mais il veut qu'on apprenne à être conscient de sa présence, puis à marcher en relation avec lui, comme s'il est là pour nous épauler. Il est notre consolateur, il est celui qui est là pour nous accompagner, mais ça s'apprend une marche avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les versets qu'on va regarder, on va voir quelques versets qui nous parlent de certaines de ses attributs. Quand on parle des attributs, on veut dire des caractéristiques, des choses qu'on voit dans la parole de Dieu qui nous parle de lui pour nous aider à comprendre, se faire une idée de qui ce qu'il est, le Saint-Esprit. Le premier attribut, je viens d'en parler, veux pas, en l'expliquant, Dieu est esprit. Dans Jean 4, 24, ça nous dit Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On a vu la semaine passée que le Saint-Esprit était Dieu. Mais dans ce verset-là, ça nous dit autant que le Saint-Esprit est Dieu, mais dans ce verset-là, ça nous dit que Dieu est esprit. Fait que quand tu parles de Dieu, tu es en train de parler de quelque chose qui est immatériel. Tu parles de quelqu'un qui n'est pas matérialisé comme la chaise, elle, c'est du matériel. Tout est matériel, même notre corps est de la matière formée d'atomes. Dieu n'est pas formé d'atomes. Dieu est là, même avant que les atomes soient créés, Dieu était là, puis Dieu n'a pas besoin d'atomes pour être là. Dieu est esprit. Puis quand on parle du mot esprit, c'est pneuma, c'est un souffle, c'est juste un vent. Mais même encore le vent humain qu'on a nous autres, c'est encore des molécules, des particules, des atomes. Chauffe sur des atomes pour sentir le vent. Mais le souffle de Dieu, Dieu est esprit. Dieu, il est immatériel, puis il est comme un vent. mais un vent dans l'eau, dans l'invisible de la matière, au-delà de ce qui est créé matériel. Il existait de toute éternité, on va le voir justement dans le prochain verset, il est éternel, dans Hébreux 9,14, ça nous dit « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, puis purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Mais on parle de l'esprit éternel, qui n'est pas de la matière terrestre. Il est bien avant que la matière ait été créée, un être éternel. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que ça voulait dire, éternel? Qui était, qui est et qui vient. Mais qui était, quand on parle du était, même avant que le temps existe, il était. C'est comme le verbe être. Le verbe être, mais conjugué dans tous les temps, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Cet esprit-là, le Saint-Esprit, il est éternel. Il n'y a jamais eu de commencement, puis il n'y aura jamais de fin. Cet esprit-là existe de toute éternité, d'une manière immatérielle, mais aussi dans d'autres caractéristiques qui sont extraordinaires, parce que ça, c'est au-delà de notre capacité de comprendre les choses. Nous autres, on est habitués, on est venu au monde à une date, puis on va mourir à une date, puis on est habitués de calculer les choses avec les dates. Dieu existait avant même que les dates existent. Dieu existe de toute éternité, en dehors de la matière. Il était avant même que la matière soit créée.
Avant Jésus-Christ, dans le fond, ça n'a pas de sens, ce qu'il dit.
Mais
avant sa naissance, Jésus-Christ, c'est physique. C'est quand il est né en corps d'homme.
Mais il existait avant.
Le monde existait avant que...
Jésus existait avant que le monde existe. Mais il est venu...
Avant que tout le monde existe.
Oui, il existait dans l'éternité.
Avant Jésus-Christ.
Oui, mais quand ils disent avant Jésus-Christ, c'est avant le jour de sa naissance terrestre. C'est là que l'histoire qu'il y avait sur la terre... Avant la naissance terrestre, il y a eu 4000 ans d'histoire.
C'est le mec qui expliquait qu'il y a eu un monde avant Jésus-Christ. C'est vraiment pas vrai, dans le fond, c'est...
Mais c'est pas avant Jésus-Christ dans l'éternité, c'est avant Jésus-Christ dans le temps terrestre. Parce que quand il y a eu Adam et Ève, il y a eu 4000 ans d'histoire, puis là, Jésus est venu au monde. Puis là, on est 2000 ans d'histoire plus tard, fait que c'est à peu près 6000 ans environ que Jésus... Que 2000 ans pour Jésus, mais là, 6000 ans pour le début de la création.
Il a mis 30 à zéro quand il est venu au monde.
C'est les catholiques romains qui ont mis le metteur à zéro à la naissance de Jésus. Ça a été fait 500 ans après Jésus-Christ environ. C'est les catholiques qui ont fait le calendrier romain puis qui ont mis ça en date comme qu'on a aujourd'hui. Les juifs, ils ont commencé à zéro à partir d'Adam et Ève. Puis là, les juifs sont rendus à l'an 5800 là, présentement. À partir d'Adam et Ève. Les Juifs qui n'ont pas le calendrier, la même chose que le calendrier romain. Nous autres, on utilise le calendrier romain. Mais les Juifs, ils ont leur calendrier avec les fêtes juives dedans. Puis ils se font des calendriers avec l'année qu'ils sont. Puis les mois, c'est pas les mêmes mois. Ils ont des mois de 30 jours. Puis c'est tout un autre système de calendrier.
L'ancien système.
C'est le système que Dieu avait donné depuis le début. À Moïse, il en a parlé. Fait que Dieu existait avant même que la première atome de la planète a été créée. Dieu, il était éternel, mais il était esprit en dehors de la matière, puis il a décidé de créer toute chose. Le troisième point qu'on voulait pour comprendre sur le Saint-Esprit, c'est qu'il est omniprésent. Ça, c'est un terme qui n'est pas écrit dans la Bible, omniprésent, mais c'est l'idée est là. Dans le psaume 139, le verset 7, ça nous dit « Où irai-je loin de ton esprit? » Là, on parle du Saint-Esprit, puis dans le psaume, il dit « Où est-ce que je peux aller loin de ton Saint-Esprit? » Il dit « Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore puis que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Ça, c'est en train de nous parler, où irai-je loin de ton esprit? Où pourrait-on aller que le Saint-Esprit, il n'est pas déjà là? Le Saint-Esprit, il est partout. Fait que quand on parle du temps, il était partout dans le temps, bien avant que le temps existe, il existait. Puis quand on parle de ce qui a été créé, la matière, il n'y a pas une place que tu peux aller que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit, il est plus grand encore que tout l'univers que tu vois. Puis je pourrais dire la même chose de Dieu le Père, puis la même chose de Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui nous dit dans le Nouveau Testament, en parlant de Jésus, qui est esprit, avant de venir sur la terre, il dit, « Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. » Tout ce qui a été matérialisé dans tout l'univers. Alors, regardez un télescope, là, avec un télescope, là, puis il n'arrive pas à trouver la fin de l'univers. Puis il y en a qui pensent qu'il y en a des centaines, puis des milliers d'univers. Parce que c'est au-delà de notre compréhension, la grandeur que c'est. Mais le Saint-Esprit est encore plus grand que tout ça. Puis c'est lui qui maintient tout ça en lui. Il n'y a pas une place que tu peux aller que tu vas pouvoir être séparé de lui. Puis c'est lui qui maintient tout ça en existence. Il est omniprésent, ça veut dire partout en même temps. Puis quand on dit partout en même temps, c'est pas parce qu'il est un gros. Moi, mettons, là, je serais obèse. Je pourrais être gros, ça a largeur. Mais j'ai pas conscience que je suis là, j'en cours conscience que je suis ici, dans ma tête. Ma tête remplit pas ma bédaine. Même si ma bédaine a 3 pieds de large, ma tête, elle est au centre. Et je pense toujours au centre. Mais le Saint-Esprit, il pense, pendant qu'il est ici, il pense, puis pendant qu'il est à l'autre bout de l'univers, il pense encore là-bas, comme s'il serait là, comme s'il serait ici, comme qu'il serait avec moi, comme qu'il serait avec toi, tout. Si tu penses à lui, il est avec toi, puis il te parle, puis il te parle, puis il me parle, puis il nous parle tous à travers toute la planète en même temps, puis il est pas déchiré, ça le force même pas. Il est capable de parler, mettons, s'il y aurait des créatures vivantes à grandeur de l'univers, il pourrait parler à travers tout l'univers, à tout le monde séparément, en même temps, puis ça le fatigue pas, il est capable de parler à tout le monde en même temps. C'est puissant, c'est grand, il n'y a aucun endroit que tu peux aller qui n'est pas là. Puis dans son infinie grandeur, là, autant dans le temps, puis dans sa grandeur de présence qui est partout en même temps, il est omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire, omniscient?
C'est tout, passé, présent, futur.
Il sait tout. Dans 1 Corinthiens 2:10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint, il sonde tout. Il est capable de tout analyser, tout comprendre, tout connaître. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Puis pas juste de tout sur nous, tout même dans les profondeurs de Dieu. Il sait tout sur Dieu. Il n'y a rien que Dieu il n'a pas révélé parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit, lui-ci. Fait qu'il sait tout. Mais quand il nous a écrit ça, ce passage-là, c'est pour nous faire comprendre aussi qu'il sait tout de nous. Il nous voit, depuis qu'on est au monde, il voyait déjà la fin de notre vie. Dieu connaissait tous les jours de notre vie avant qu'aucun d'eux existât. Il dit, on n'a même pas ouvert la bouche, il connaît déjà tout ce qu'on va dire. Il savait l'ensemble de toutes nos paroles, de toutes nos bêtises, de toute notre vie, il savait tout avant même qu'on vienne au monde. Puis quand il nous a reçus, quand il nous a acceptés, ou quand plutôt il nous a donné une ouverture d'être pardonné, il savait qui ce qu'on était puis tout ce qu'on ferait dans notre vie avant même qu'on les vive. C'est un Dieu qui est tout puissant, il est grand, puis il est infiniment grand. Il sait tout. Il n'y a rien que tu peux faire qu'il n'a pas vu. Autant qu'il remplit toute chose, il remplit toute chose, puis il maintient toute chose en vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes à l'intérieur de lui, puis il est témoin de tout, puis il se rappelle de tout, puis il fait pas de l'Alzheimer. Les seules choses qu'il va oublier, c'est les choses qu'il a décidé d'oublier. Y en a-tu des choses qu'il va décider d'oublier?
Nos péchés.
Nos péchés confessés. Il va décider de les oublier. Parce qu'on l'aime, parce qu'il nous aime, il nous a donné un accès à pouvoir recevoir un pardon que c'était impossible d'obtenir parce qu'on est trop pécheur. Lui est encore plus grand que tout ça, il savait tout ça d'avance, puis il a décidé quand même de nous ouvrir l'ouverture, de pouvoir connaître la grâce, puis de pouvoir l'obtenir, cette grâce imméritée. Une grâce qu'on ne peut pas mériter. C'est un cadeau qu'il est obligé de nous faire parce qu'on n'aura jamais pu l'acheter, ce cadeau-là. Mais il savait tout ça d'avance, comment ce qu'il aura à nous endurer tout le long de notre vie, toutes les fois qu'on lui résiste, toutes les fois qu'on ne l'écoute pas et qu'on s'oppose à son idée, toutes les fois qu'on fait des choses qu'il n'aime pas.
On l'attriste,
on lui fait de la peine, puis des fois même on peut l'éteindre dans son action, puis on va dire « Non, Seigneur, on contrôle notre réunion, t'as pas besoin de venir faire, de nous déranger dans notre réunion. Viens pas prophétiser. On l'étouffe dans des réunions. Nous autres, on veut pas l'étouffer, là, mais je sais que ça existe, d'étouffer les dons de l'Esprit. »
Prends toute
la place, Seigneur. Oui. 1 Corinthiens 2:11, ça nous parle des choses que l'Esprit connaît puis que l'Esprit veut nous révéler à nous qui sommes ses enfants. Il dit, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Fait que la moindre petite chose qu'un humain peut apprendre ou connaître sur Dieu, il a fallu que cet esprit éternel-là, tout puissant, qui sait tout, qui voit tout, qui maintient toute chose en existence, il fallait que cet esprit-là nous la révèle. Sinon, ça aurait été impossible pour nous de connaître ou comprendre quoi que ce soit. Si on est là, assis aujourd'hui, en train de se dire, merci Seigneur de m'avoir fait comprendre que Jésus-Christ a payé sur la croix pour que je puisse être pardonné de mes péchés. Si je suis capable de dire ça aujourd'hui, il a fallu que le Saint-Esprit m'amène à comprendre ça. Il a fallu que je sois à l'écoute de sa voix pour le comprendre. Sinon, je me serais astiné dur comme faire que je peux gagner mon ciel par mes bonnes œuvres, puis je peux mériter mon ciel en faisant telle religion. J'aurais cru n'importe quoi qui est faux. Si on comprend quelque chose parce qu'il est venu frapper à notre cœur, puis il nous a dit, il nous a tout chuchoté réponse. Puis là, on s'est pas opposé à sa révélation. On a décidé de le croire, puis de l'accepter. Puis le reste s'est enchaîné, la révélation s'est installée, parce que l'Esprit, il voulait nous parler, puis on s'est ouvert, puis il nous a révélé sa pensée. Puis plus que tu vas vouloir t'approcher de lui, plus que lui va vouloir aussi déverser en toi sa révélation, sa connaissance. Puis sa puissance. Ce Saint-Esprit-là, il est omnipotent. Savez-vous que ça veut dire omnipotent? Tout puissant. Il peut tout. Il est tout puissant. Il n'y a rien que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire. Disons qu'il y a certaines choses qu'il ne veut pas faire. Il veut pas déplaire à Dieu le Père. Il veut pas pécher. Il veut pas faire des choses contraires à la volonté du Père. Ça, c'est sûr. C'est pas que, puis il veut même pas y penser d'en faire non plus parce que lui, le Saint-Esprit qui est Dieu, puis que Jésus-Christ est Dieu, puis le Père, les trois sont là de toute éternité, ils marchent ensemble. Ça se peut pas qu'ils fassent le contraire d'un de l'autre. Mais pour venir à l'idée, c'est qu'il est tout puissant, puis il veut accomplir la volonté du Père sur la terre, dans Galates 5, 22. Non, excusez, c'est pas Galates 5, 22, mon verset. Je suis pas dans la bonne page. Dans Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle, le vent, le pneuma, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça, Job, qui est un personnage historique très bénissant dans son histoire qu'il a vécu, marchait avec l'Esprit de Dieu. Puis il avait compris que l'Esprit de Dieu l'avait créé. Et que le souffle du Tout-Puissant animait Job. Dans cette phrase-là, il est en train de dire « L'Esprit de Dieu m'a créé, puis le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ça veut dire que le Tout-Puissant, c'est l'Esprit de Dieu. Dans la même phrase, ça nous parle du même qui est en lui. Tu es créé par l'Esprit de Dieu, puis le souffle du Tout-Puissant t'anime quand tu es un enfant de Dieu. Fait que tu marches en communion avec le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, Tout-Puissant? Ça veut dire qu'il peut toute chose. Il peut faire tout ce que même ce qu'on peut pas imaginer. Il n'y a pas de limite. Dites-moi à quoi est-ce qu'on a imaginé quand que, il a décidé de créer l'univers. Est-ce qu'il nous a consultés? Y avait-tu besoin de nos réponses puis de nos c'est idées? Y avait-tu besoin de comme une boîte à suggestions? Seigneur, tu pourrais faire ça comme ça, puis faire ça comme ça. Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Il sait déjà tout ce qui est parfait à faire. Puis qu'est-ce qui est très bon à faire.
Il a pas un d'après à
Mais
ça serait peut-être embarrassant, mais...
Qui a conseillé le Seigneur?
Hein, ouais, qui a été son conseiller?
Personne.
Mais dans le verset, ça nous dit qu'il est le Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Un fait qu'on remarque aussi quand Jésus-Christ est ressuscité. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples?
Que le Père soit avec toi.
Non, ça c'est quand il nous a apparu, mais dans un autre moment, le point que je veux emmener, qui a rapport au Tout-Puissant, non, quand il parle de la puissance, là on parle du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, on voit dans ce verset-là, qui est Tout-Puissant, puis Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été remis, dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ, après sa résurrection, est redevenu le Tout-Puissant. Okay. Tout-Puissant, c'est Almighty. C'est Tout-Puissant.
All powerful.
Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Après sa résurrection, on dit tout pouvoir m'a été remis, mais c'est le Tout-Puissant. Jésus était dans cette gloire-là avant de venir, parce que ça nous dit que toutes choses ont été créées par lui, par Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. En Jésus est la vie, puis la vie est la lumière des hommes. Ça veut dire que tout est dans le Tout-Puissant qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu le Père aussi. C'est grand. On pourrait continuer à élaborer, mais j'ai d'autres petits points pour aller vite. Le Saint-Esprit, une autre belle caractéristique, il est saint. Isaïe 63:10. Il y en a plusieurs versets dans chaque catégorie. J'aurais pas à prendre plusieurs, mais j'en ai pris qu'un pour que ça y aille plus vite. Isaïe 63:10 nous dit, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit saint. » Puis il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. C'est un verset-là, il est puissant. Parce que là, on parle d'un conflit entre le peuple d'Israël et Dieu lui-même. Dieu les appelait à obéir, puis le peuple se rebellait. Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Puis que le Saint-Esprit, qui est appelé dans ce verset-là, il l'appelle l'Esprit Saint. Ils disent, ils ont attristé son Esprit saint. C'est parce qu'il est en train d'attribuer que l'Esprit est saint. Quand que Isaïe, il a eu la révélation de celui qui était sur le trône, puis qu'il y avait les séraphins qui se tenaient autour du trône, puis qui criaient un à l'autre, des créatures divines. Ça disait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. » Puis quand ces séraphins-là criaient la gloire du Seigneur, puis le déclaraient saint, ça, y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, saint? Je l'ai déjà expliqué dans une autre étude.
Sans péché.
Ça touche à ça, mais le premier sens, ça touche... Hein? Ça, c'est les sens que nous autres, ça nous donne quand on s'approche, mais lui, il est sacré. Quand que ce qui est contraire à profane, ce qui est sacré, c'est ce qui est différent du reste, puis qu'il est le centre en étant sacré, vénéré, le culte lui est rendu, il est sacré, c'est qu'il est saint. C'est ça que ça veut dire, le premier sens. Puis là, à cause, on le sait que, aussi, il est, toutes les autres définitions que j'avais dit, là, pur, sans péché, c'est ce qui découle. Mais la première chose, c'est qu'il est sacré, et nous étions des profanes. Profanes?
Ça a l'air que le mot Yahweh, dans l'ancien temps, c'était très sacré. Et les gens osaient même pas de le dire, tellement
c'est ça.
Que c'était sacré.
Ouais.
Il avait les mains quand il écrivait avant d'écrire le nom de.
Oui. Il y avait des rituels de purification.
C'est que Dieu, en parlant de ceux qui ne veulent pas l'écouter, tout, il y a des théories. Il dit que leurs prières même deviennent un péché. Même les prières à ces gens-là.
Oui, pour ceux qui se rebellent, oui.
Pour ceux qui se rebellent.
Oui. Non, ça c'est dans.
Il n'est pas le tourne direct.
Oui, ben, je m'en rappelle, il est écrit.
Oui, il est écrit.
Ouais. Fait que quand on parle de la sainteté de Dieu, Dieu est saint, il est sacré, puis l'ensemble de l'humanité est profane, puis quand tu viens à lui, il dit que tu deviens saint. Quand il entre dans ta vie, là. Tu deviens à être un saint. Toi-même, tu deviens saint. Tu deviens un sacré. Parce que l'Esprit sacré qui est en nous. L'Esprit du Créateur.
Vous savez, Seigneur, je suis saint.
C'est
mais
ça.
C'est drôle qu'en français, vous dites, quand vous sacrez, tu dis arrête de sacrer. Hein?
Oui. Ça, sais-tu mais pourquoi?
Ça,
c'est à cause de l'Église catholique qu'ils disent ça. C'est pas écrit dans la Bible comme ça. C'est que l'Église catholique a décidé de dire que certains mots sont sacrés et t'as pas le droit de les utiliser. Fait que là, ils ont mis hostie, tabernacle, calice, ciboire. Ils en ont une couple de mots qu'ils ont dit ça, c'est des mots sacrés. Mais en réalité, c'est pas sacré. Même pas.
Même pas
c'est rien.
C'est juste pour les
un tabernacle, là, ça veut dire habitation. Mais eux autres, pour eux autres, l'habitation, c'est la petite boîte dans le trou, ce qu'ils mettent le calice. Puis le calice, c'est c'est une coupe. Un calice, c'est le mot coupe. Ils ont décidé de rendre sacré le mot calice, mais c'est un mot qui était utilisé pour désigner une coupe. Mais ils ont dit que c'était des sacs. Mais dans la parole de Dieu, il y a un seul mot qu'on doit pas prendre en vain. Le nom du Seigneur. C'est un des commandements de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain.
Puis le nom du Saint-Esprit aussi.
Mais c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre le nom de Dieu en vain. C'est pour ça que quand on parlait d'Yahvé, qui était le nom de Dieu, il voulait pas le prendre en vain. Puis c'est pour ça qu'il se purifiait, puis il n'osait pas le prendre en vain. De l'utiliser pour rien. C'est ça qui est en vain. Dieu, c'est tellement sacré ce nom-là. C'est tellement sacré ce nom-là que personne prononce son nom. Mais en réalité, c'est pas ça. Il voulait pas aller jusqu'à là. Parce qu'il nous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il voulait qu'on invoque son nom. Puis il dit, j'ai fait connaître ton nom parmi les hommes. Jésus qui a dit ça. Quel nom qu'il a fait connaître? Qu'il a fait connaître Père.
Il est écrit partout dans la Bible, invoqué le nom du Seigneur.
Ben oui. C'est parce que la religion a déformé les choses, mais l'Église catholique nous en a déformé beaucoup aussi. L'histoire des mots sacrés, ça n'existe pas. Le seul mot qu'il faut pas prendre, c'est les noms du Seigneur. Puis, mon Dieu, Seigneur.
Les gens disent ça tout le temps.
Oui, mais ils blasphèment tout le temps parce qu'ils invoquent le Seigneur sans y réfléchir. Donc, ils prennent 120. Ils pêchent contre un des 10 commandements. Dieu veut pas qu'on parle de lui comme sans y penser. Il veut qu'on l'adore en esprit, en vérité, avec respect, avec crainte, puis qu'on prenne son nom comme si c'est précieux, le nom de Jésus-Christ. Puis il y en a qui prennent ça avec des maudits avec devant, puis ils maudissent le nom du Seigneur. C'est comme si c'est rendu un mauvais mot. Mais en réalité, c'est un mot saint. C'est un nom qui est pur, qui est au-dessus de tout nom. C'est très grandiose. Fait que je vais arrêter sur ça ce soir. On continuera la semaine prochaine. Il y a encore des points, parce qu'ils sont très beaux. C'est la révélation de la parole de Dieu, comme je vous disais. Quand tu commences à méditer tous les versets qui sont là, il y a tellement de richesses là-dedans qu'on, sur chaque sujet, on pourra faire une prêche. Il y a tellement de belles affaires à dire. Qui nous y fait penser au Seigneur, à sa grandeur, à son étendue, à son pouvoir, à sa puissance. On va prier. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a eu ce soir dans la louange, la prière, puis la méditation de ta parole. Je te remercie de ce que le bien que tu fais dans nos vies en méditant tous ces versets-là, Seigneur, ça nous fait du bien pour ouvrir nos yeux, pour nous faire voir comment est-ce que tu es si grand, si beau, si merveilleux. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Puis souvent, on oublie que tu es ce grand Dieu-là. Puis je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et garde-nous dans ta main puissante. Conduis-nous dans tes voies. Continue à pourvoir aux besoins, Seigneur. On te fait confiance. On sait que on met nos ventres entre tes mains dans le nom de ton fils Jésus. Amen.